Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Désir en paillettes ou Copa mixte, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidoroff. La fiction d'aujourd'hui raconte l'histoire et la vie de gens ordinaires, des gens qui ont dû mener un combat très difficile, affronter la haine, l'intolérance et la bêtise. Souvenez-vous, c'était le 23 avril 2013, il y a 5 ans. Dernière ronde à l'Assemblée nationale pour le mariage homosexuel. Pendant que les conservateurs envahissent la rue pour crier leur opposition, dans l'hémicycle, le mot égalité est scandé par les députés de gauche qui viennent appuyer le projet de loi ouvrant le droit au mariage et à l'adoption aux couples de même sexe, défendu par la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira. Ce vote, adopté définitivement par l'Assemblée, fait de la France le 9e pays européen à autoriser le mariage pour tous et le 14e dans le monde. Pourtant, la tension n'est jamais retombée et un climat d'intolérance s'est installé avec les manifestations des anti-mariages homosexuels. L'homosexualité est devenue un objet de guerre idéologique. Christiane Taubira s'était elle-même étonnée. Quel est donc ce climat d'intolérance, cette incapacité à accepter le débat, les désaccords, disait-elle. Une période très difficile à vivre, en effet, pour beaucoup d'homosexuels qui ne pouvaient pas s'attendre à un tel déversement de haine, crié dans la rue et sur les réseaux sociaux. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le mariage entre personnes du même sexe est une simple étape dans la bataille de l'égalité. Et les homosexuels n'ont toujours pas accès à tous les droits accordés aux couples mariés hétérosexuels, comme la PMA, la procréation médicale assistée. Mais l'opinion semble se montrer aujourd'hui favorable à ces évolutions pour toutes les femmes, quelle que soit leur vie sexuelle. Nous reviendrons sur ce débat après la fiction avec notre invitée Hélène Malmanche, sage-femme à la maternité des Bleuets et auteure d'une thèse sur les différents modes d'accès à la parentalité contemporaine. Écoutons tout d'abord l'histoire de Camille et Claude, Frédéric, Mathieu et leur enfant Théo, une famille d'aujourd'hui.
Fabrice Drouen, Affaires sensibles, sur France Inter.
Désir en paillettes, de Nicole Sigal, une réalisation de Michel Sidoroff.
Bienvenue, Camille.
Bonjour, Nina.
C'est qui ?
C'est la nouvelle babysitter, mon chéri.
Je ne connaissais pas le terme « copa ». J'allais le savoir quand je sonnais à la porte de Claude et Camille, un soir de janvier 2018. J'étais étudiante en histoire de l'art, et pour financer mes études, je gardais très souvent des enfants. Mais je n'avais jamais été convoquée à ce genre d'entretien d'embauche très particulier. Une jeune femme d'allure sportive vint m'ouvrir avec le sourire. Elle m'introduisit dans le salon et me présenta à deux autres femmes un peu plus âgées qu'elle, ainsi qu'à un homme de son âge environ. Un petit garçon, ravi d'avoir autant d'adultes autour de lui, m'annonça triomphalement qu'il allait avoir 5 ans et qu'il s'appelait Théo. Ils me prièrent de m'asseoir en face d'eux. J'ai eu soudain l'impression de me retrouver devant un jury d'examen. Camille continua les présentations. Je n'étais pas sûre de bien comprendre. Un peu comme dans les pièces de Tchekhov, où l'on s'embrouille au début dans les liens entre les personnages.
Claude, ma femme, père social de Théo, je suis sa mère biologique. Frédéric, mon ex-compagne et tata de Théo. Mathieu, mon ami d'enfance, père biologique de Théo, qui a la garde alternée une semaine sur deux. Voilà, vous savez tout.
J'ai plein de papa et de maman.
Nous travaillons le soir, Camille et moi, et voudrions faire garder Théo la semaine où il est chez nous.
J'aurais pu le garder, je suis libre le soir.
Tu viendras le garder chez moi quand j'ai une soirée.
Ne reviens pas là-dessus, Frédéric, c'est pas le moment. Mettez-vous à l'aise, Nina, vous allez étouffer avec votre menton. Vous voulez boire quelque chose ?
Oui, merci. Oui, je veux bien.
Non. Ça va, Nina? Vous vous y retrouvez dans nos liens de parenté?
Oui. Oui, j'ai pas l'habitude. Ah, merci pour le thé. Je vais souvent garder des enfants chez des femmes seules. C'est plus joyeux d'en voir quatre.
Trois femmes et un homme.
Hein. Oh oui, excusez-moi. Je suis un peu troublée entre les genres et les rôles, je m'en mêle.
Oui. Ne vous en faites pas. Notre coparentalité, notre copa, en intrigue plus d'un et d'une.
Mais je trouve ça bien. C'est juste un peu déroutant. C'est sympa, cette communauté, comme dans les années 70.
Non, une homoparentalité, c'est différent. On vit en couple, Camille et moi.
Oui.
Mathieu a la garde alternée de Théo, comme n'importe quel couple séparé.
Je préfère coparentalité mixte, si vous voulez bien, les filles.
Bah oui, t'es pas homosexuel.
On va pas recommencer à jouer sur les mots.
Faut pas tout mélanger, c'est déjà assez compliqué comme ça. Va voir ce qui se passe, Mathieu. C'est le moment de montrer ton autorité de père.
Ne faites pas attention, Nina. Ils sont toujours en train de se chamailler, ces deux-là.
Comme dans toutes les familles.
Exactement. On n'est pas différents des autres.
Il avait habillé Croquette avec son pyjama et un bonnet sur la tête. Alors tu penses qu'il s'est fait griffer? Oh, vous auriez vu la touche du chat.
C'est une chatte, s'il te plaît. Pourquoi tout mettre au masculin?
Tu penses à désinfecter Théo, au moins.
Mais oui, c'est pas parce que je suis un homme hétéro que je ne sais pas pouponner. Vous devriez le savoir depuis bientôt 5 ans.
T'es un vrai papa poule.
Bof.
C'est super de vivre comme ça, d'inventer une nouvelle famille.
On n'est pas les seuls, on n'a pas le choix.
Quand on s'aime et qu'on veut un enfant comme n'importe quel couple hétéro...
C'est le parcours du combattant.
C'est pas plus facile pour un hétéro célibataire. Hein.
Sauf si tu veux adopter. On accorde plus facilement l'adoption à un hétéro célibataire ou en couple qu'à des homos.
Finalement, on a uni nos difficultés et nos joies sans rien demander à personne. Théo est en train de s'énerver, il va avoir du mal à s'endormir.
Laisse, j'y vais.
On va peut-être libérer Nina de nos histoires de famille.
C'est passionnant, au contraire. Je m'attendais pas à rencontrer autant de monde. Ça donne envie de raconter votre histoire. Elle est tellement originale. J'ai choisi une option écriture théâtrale à la fac. Je dois écrire une pièce.
Vas-y, fonce. Si ça peut clouer le bec à des manifs pour tous et autres homophobes embusqués.
Petite chaîne, monsieur Seguin. Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre.
Vous êtes libre pour commencer la semaine prochaine? C'est notre semaine.
Oui, oui, bien sûr. À lundi.
Oh, Croquette encore en bonnet. Attention, elle va se sauver.
Croquette, viens ici, viens ici.
À la semaine prochaine, Nina. N'oubliez pas.
J'étais un peu abasourdie, mais contente d'avoir rencontré cette petite communauté hors normes. Des gens inventifs et heureux d'être allés jusqu'au bout de leurs désirs. Je rentrai dans le premier café venu et commençai à tirer le fil de leur histoire. Quand le patron est venu me dire qu'il fermait, j'avais déjà un dossier de 10 pages sur ma tablette. Je le nommai « Désir en paillettes ». J'étais très contente de mon titre. C'était ma première pièce. Je découvrais qu'en 2018, les homosexuels, malgré le mariage pour tous, étaient encore obligés de se battre pour avoir les mêmes droits que les hétéros. On leur avait accordé le droit de s'aimer légalement, mais pas de désirer un enfant.
Bien.
Ensuite. Non. Pas un C, non, un Q-U. Q.
Croquette.
Bravo. Je commençais la semaine suivante comme prévu. C'était un vrai plaisir de jouer avec cet enfant plein de vie qui comprenait d'une manière étonnante d'où il venait et tous les liens qui l'unissaient à sa famille. « Ma copa », disait-il très fier, comme il aurait dit « mes copains ». Camille, Claude et Mathieu, et Frédéric aussi, la tata au cœur d'or parfois envahissante, me racontèrent petit à petit le feuilleton de leur parcours du combattant, comme ils disaient.
Bon allez, on a envie de connaître la suite. Camille, Mathieu, Frédéric, en scène.
Et moi, et Croquette, je vais lui mettre sa robe de princesse.
Ils jouaient leur propre rôle.
Mais du coup, on n'est pas au même endroit que tout à
l'heure. Bon, vous êtes prêts? La scène se passe chez le gynécologue français à qui vous avez fait part de votre désir d'enfant. Voilà. Ici, là. Mathieu, tu vas faire le gynéco. L'autorité, la loi, c'est toi le père, non?
Oh, ce sale type bouffi d'une homophobie qui ne dit pas son nom.
Eh oui, ça commençait mal.
Fallait s'y attendre.
Il les cumulait. J'ai failli lui demander s'il était marié avec Frigide Bardot.
N'y va.
Mesdames, dites-moi ce qui vous amène.
On s'aime et on voudrait avoir un enfant.
Qui on?
Oh, le con.
Chut, oh, on se concentre. Vous n'aviez pas envie de rire à ce moment-là. Mathieu, reprends.
Qui on?
Ben, nous deux.
Il vous faut un homme pour ça.
Pas forcément.
Ah, vous voulez un homme en paillettes? Enfin, c'est interdit en France, sauf pour les couples normaux, enfin hétéros, qui peuvent prouver qu'ils sont stériles. Oh, enfin, c'est pas un peu énorme?
Non, c'est exactement le bonhomme.
Tu trouves même pire quand tu vas voir les témoignages sur des forums.
Allez, ne cassez pas le rythme, on reprend.
Sauf pour les couples normaux, enfin hétéros, qui peuvent prouver qu'ils sont stériles. Laquelle de vous deux veut porter l'enfant?
Moi, avec un ovule de ma compagne.
Une fille en plus. Votre compagne est un peu vieille, déjà que l'IA c'est pas gagné.
L'IA et la fille?
L'insémination artificielle et la fécondation in vitro.
Ah.
De toute façon, c'est interdit en France pour les couples de même sexe. Il faut aller à l'étranger, avec tous les risques que ça comporte. Si vous voulez vous ruiner, libre à vous.
C'est de l'ordre de combien?
Une PMA, c'est entre 5 000 et 10 000. Plus une série de voyages en Belgique ou en Espagne, vous les avez?
On se débrouillera.
Quant à la GPA, la gestation pour autrui, il faut compter entre 35 000 et 150 000 selon les pays. Oh là là! Et heureusement que j'ai pas choisi cette solution pour être père. Bien, faut aller en Australie ou au Canada, c'est une autre paire de manches. Si vous voulez faire un petit Australien ou un petit Canadien, ne croyez pas qu'on va lui accorder la nationalité française. Vous vous voyez avec un enfant qui sera un petit étranger, un migrant en quelque sorte? Oh, il est atroce et j'en peux plus.
C'est ce qui nous est arrivé.
Il lui a mis ton bonnet à paillettes, Nina.
Elle s'appelle plus Croquette, elle s'appelle Paillette, elle est d'accord.
Pourquoi, mon chéri?
Parce que c'est dans la pièce de théâtre.
Au fil des jours, je voyais ma pièce prendre forme dans leur voix. On s'amusait comme des enfants. Paillette et Théo aussi. Je me demandais ce qui se passait dans la petite tête de Théo qui n'en perdait pas une miette.
Je préfère le thé à 75 degrés.
Je n'avais pas pu m'empêcher de faire une scène avec une des psychologues qu'elles avaient rencontrées. Frédéric était parfaite dans le rôle de la psy moralisatrice. On la blaguait gentiment. Ils prenaient leur rôle de plus en plus au sérieux. Je commençais à faire partie de leur petite communauté et passais plus de temps chez eux qu'à la fac.
Laisse tomber.
Non mais regardez, je fais les choses bien. Elle est pas belle ma cuisine de nouveau père là? Hein? Ma dernière trouvaille, regardez, pour Théo. Une assiette chauffante en petit canard.
Joli, très rétro, j'en avais une comme ça.
T'es meilleure que nous en femme d'intérieur.
Ouais.
Je propose qu'on fasse la mise en place tout de suite en mettant par exemple deux chaises pour les deux filles.
Ouais, ok.
Voilà.
On se met comment?
Voilà, côte à côte, puis on mettra la. Psychologue, donc c'est toi Frédéric, je vous donne les feuilles, voilà.
Merci.
Merci. Ok, vas-y.
Je crois que c'est comme ça que tu dois te mettre.
Eh ben, je sais pas si j'attends que Nina me...
Vas-y, Frédéric, ouais, tu fais la psy.
Ah bon? Bon, ben... je me lance. On boira le thé après. Hein. Et l'enfant dans tout ça? Je me doute que vous êtes capable d'élever un enfant. Ni plus ni moins que n'importe qui. Mais imaginez ses problèmes quand il ne saura pas laquelle de vous deux appeler papa.
Je représente plus la loi et l'autorité dans le couple. Camille est plus laxiste et plus féminine que moi. Je serai le père.
C'est la même chose pour l'adoption. Permettre l'adoption par un couple homosexuel revient à dire à l'enfant que ses parents adoptifs, homosexuels, peuvent être l'équivalent de ses parents de naissance, forcément hétérosexuels. Donc que la différence des sexes n'existe pas. Cette différence qui permet de penser, comme a dit je ne sais plus quel philosophe femme.
On a réfléchi à tout ça. Il ne manquera pas d'amour. Il en aura bien plus que dans certaines familles normales.
L'amour ne fait pas tout dans la construction psychique.
Il aura des oncles autour de lui.
Vous avez donc conscience qu'il faut une différence. La différence des sexes est un élément essentiel de la construction de l'enfant. C'est votre désir à vous, mais l'enfant est le grand oublié dans l'histoire. Quiconque veut un enfant n'a pas droit à un enfant, sans se demander à quoi l'enfant peut avoir droit.
Il aura droit à notre amour et à toutes nos explications pour pouvoir se construire. C'est un enfant qui saura très tôt d'où il vient et qui pourra s'épanouir en toute tranquillité.
Certainement mieux qu'en baignant dans un secret de famille, comme ça arrive souvent.
Je vous répète, l'amour n'est pas l'alpha et l'oméga des besoins d'un enfant. Surtout quand on sait qu'on peut le détruire en l'aimant, comme ces mères abusives qui emprisonnent leur enfant dans un amour étouffant.
N'ayez crainte, on s'est posé toutes ces questions.
Je ne suis pas pour le tout est possible. La différence des sexes est un repère symbolique majeur pour l'enfant, pour deux raisons.
On connaît notre Freud par cœur, madame. On a fait des études.
Laissez-moi terminer. Je me dois de faire mon travail. Après, vous irez faire l'enfant que vous voulez. La différence l'aide à comprendre sa place dans sa généalogie et elle pose l'interdit de l'inceste qui lui permette de construire son identité.
Vu le nombre d'incestes qu'il y a dans les familles normales, on peut se poser des questions.
Remettre en cause cette différence revient ainsi à faire vivre l'enfant dans un monde où tout est possible, où les hommes sont des papas et aussi des mamans, les femmes des mamans et aussi des papas. Un monde de la toute-puissance magique, où chacun, armé de sa baguette magique, pourrait abolir les limites. On sait comme la toute-puissance est invalidante pour l'enfant. Elle l'empêche d'accéder à une vraie puissance. Pourquoi se fatiguerait-il à écouter la maîtresse et à apprendre à lire dans un monde où les baguettes magiques existent ? Voilà, je n'ai plus rien à rajouter.
Wow. Voilà. Aussi compact qu'un chiparmentier.
Je plains ces enfants, même avec un père.
On allait à la piscine après, tu te souviens? J'étais au bord de la crise de nerfs.
Elle ne dit pas que des choses idiotes.
Non, mais elle ne nous a pas laissé en placer une.
On avait conscience de tout ça. On venait justement pour en discuter. On peut inventer beaucoup de choses pour pallier à cette foutue normalité de la société.
En faire une richesse, justement. D'ailleurs, Théo en est l'exemple irréfutable. Il n'y a qu'à demander à sa maîtresse, il est en avance sur tous les enfants de sa classe.
Quant à son identité, on ne s'en fait pas. Il sait qui il est et d'où il vient.
C'est la psy, malgré tout, qui vous a décidé pour un père biologique.
Mais non, c'est en voyant les mois se succéder. Les allers et retours en Espagne et en Belgique s'additionner. Les factures s'accumuler. Une insémination artificielle. Deux, trois, et rien ne se passait. J'étais épuisée par les traitements.
Je ne me suis pas aperçue que ça avait été aussi dur. Même en étant très proche de vous...
Et avec la famille, les amis. Avec mon père, ça a été le pompon. Débrouille-toi avec ta mère, je ne veux pas en entendre parler.
Déjà qu'il avait eu du mal à m'accepter comme belle-fille. Alors, quand on lui a annoncé qu'on voulait un enfant, j'ai cru qu'il allait s'étrangler avec une cacahuète.
Ma mère faisait des efforts pathétiques. Oui, bien sûr, j'aurais préféré un chemin plus classique, comme celui de ta sœur. Mais je veux être la même grand-mère pour lui.
Elle était touchante dans ses maladresses. Camille, j'accepterai votre enfant comme je vous ai accepté vous. Je ne suis pas la seule dans ce cas à être confrontée à ces tabous. Faut vivre avec son temps. Je vais essayer de comprendre. Je me souviens de toutes ces expressions.
Et quand Théo est arrivé, elle est devenue gaga.
Et si on l'écoutait, Théo passerait sa vie chez eux. Il est toujours ravi d'y aller.
C'est magnifique. Arriver à vaincre tous les préjugés. Être allé jusqu'au bout de votre rêve.
Mais quel chemin de croix pour y arriver ?
Et pour finalement nous improviser chimistes.
Ah ? Comment ?
Demande à Mathieu.
Théo se réveille.
Il avait bien besoin d'une sieste. Il se couche toujours trop tard chez Mathieu.
Oh, pas quand je le garde.
Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est. Mais il est où mon Théo? Il est où mon Théo? Je le vois pas. Il doit être chez ses mamans.
Hein? Leur rêve était devenu réalité. Mais leur vie quotidienne n'était pas simple. Elle était fatigante parfois, usante et injuste envers trois parents aimants et responsables. Cette situation pouvait être fragilisante pour l'enfant.
Ah, il a amené Payette ici.
Ah, elle a changé de nom. Pourquoi elle s'appelle Payette maintenant?
Demande à Théo.
Oh, il ne veut plus s'en séparer. Il a besoin d'un petit frère ou d'une petite sœur pour jouer.
C'est un grand sujet de débat avec Claude.
Je ne suis pas contre, mais dans de meilleures conditions. Papa n'est pas là?
Il est parti se promener à la rivière avec Théo.
Il est toujours parti se promener quand on arrive.
Arrête, Claude, n'embête pas ta mère avec ça.
C'est déjà difficile pour moi. Enfin, ça ne l'est plus. Je suis vieille maintenant. Je suis d'une génération où on ne vivait pas tout ça.
Vous viviez dans l'hypocrisie et les secrets de famille à la pelle. C'est bien pire pour les enfants.
On ne divorçait pas, comme maintenant.
C'est pour ça que t'es restée avec papa, alors qu'il te rendait malheureuse.
Claude ne remue pas toujours les mêmes histoires.
Maintenant, on est vieux. C'est du passé.
Pas pour moi. J'en ai souffert et j'en souffre encore.
Claude, arrête. Grand-mère a compris.
J'espère, maman, que tu as compris que je ne suis pas anormale. Qu'un enfant est plus heureux dans un couple homo qui s'aime que chez des hétéros qui se haïssent.
Je te répète, c'est du passé. On vit tranquille, maintenant. Avec ton père.
Mais tu t'es sacrifiée.
Je suis heureuse avec mes petits-enfants. Je les aime tous.
Même les enfants d'homo?
T'es lourde.
Je vais te dire, si Mathieu avait un enfant avec une autre femme, je l'aimerais autant que Théo et tes neveux. J'ai fait des progrès, non?
Mathieu vous a dit qu'il avait une copine?
Non. Ce sont des choses qui sentent.
Juste alors, il ne nous aurait rien dit?
Oh, la jalouse!
Je ne voudrais pas être de mauvais augure, mais si vous vous sépariez, comment ça se passerait pour Théo?
Si la séparation se passe mal, je peux être coupée de Théo sans aucun recours. L'enfant non plus n'est pas protégé. C'est ça la législation française qui ne reconnaît pas aux homos le droit d'avoir un enfant. Les vrais parents, ce sont Camille et Mathieu.
Il y a des drames de ce genre tous les jours. Je te ferai pas vivre ça, Claude, j'en suis sûre. Rien que pour Théo.
Je me faisais du souci. C'est ton père qui y a pensé.
Lui, dès que ça peut tourner mal, et surtout te faire du mal, qu'est-ce qu'il a besoin de te donner des soucis inutilement?
Il a entendu ça à la télé.
Bonjour, l'intox.
Ça prouve qu'il s'intéresse.
Bon, je vais voir si je le trouve à la rivière. J'aimerais bien avoir une petite conversation avec lui.
Va pas encore te disputer avec lui! Elle et son père, c'est quelque chose.
Elle lui en veut beaucoup.
Mais dis-moi, Camille, vous avez envie d'avoir un deuxième enfant?
Oui. Mais on attend que ça soit permis en France. Pour le faire avec un donneur légal et un ovule congelé de Claude. Si ça marche, ce sera un enfant en partie de votre sang.
Je suis un peu dépassée par toutes ces manipulations. Comme si on pouvait tout faire. Fabriquer des humains à notre convenance. On n'aura bientôt plus besoin du corps des femmes. Il paraît que c'est possible d'implanter un utérus à un homme. Et l'on dit à la télé.
Pourquoi pas? Les hommes verront ce que c'est. Ils ne seront peut-être pas beaucoup à se précipiter.
Oh, tout ça me chamboule.
Je vous comprends. Tout change tellement vite. Et les limites sont sans cesse dépassées. C'est déstabilisant parfois.
Claude pourra être la vraie mère de votre deuxième enfant?
Oui. Si la loi passe, elle pourra l'adopter. Avec Théo, elle ne peut pas, il a déjà un père qui l'a reconnu.
Ils sont bien longs. J'espère que Claude ne se dispute pas avec son père.
Non, pas devant Théo.
Je ne t'ai pas demandé. Frédéric va bien?
Oui, elle garde souvent Théo, elle est ravie. La babysitter n'est pas disponible le soir en ce moment, c'est la période des examens.
Oh. Ils ne sont pas à la rivière et la voiture n'est pas dans le garage.
Hein? Ah, on est quel jour? Mercredi? J'avais oublié. Ils sont partis aux eaux de Thoiry. Ils vont rentrer tard.
Ils trouvent toujours moyen de ne pas être là quand on vient vous rendre visite. C'est une manie.
Ce n'est pas grave. C'est les vacances. Théo peut rester un jour de plus. Ça m'a fait plaisir de vous voir, mamie.
Moi aussi. Je me suis habituée maintenant. J'aime vous voir heureuse.
Au revoir, maman. Arrête de te faire du souci. On trouvera toujours des solutions.
À la nôtre, et à tes yeux rieurs qui m'ont ensorcelé. Et tu sais que Théo m'a demandé s'il allait avoir une troisième maman. Je lui ai répondu qu'il aurait peut-être aussi un petit frère ou une petite sœur pour jouer.
Hé, hey, pas si vite mon loulou. Faut que je finisse ma pièce et que je la monte.
À nous.
Et oui, nous étions tombés amoureux. Mathieu, le célibataire endurci, avait craqué. Il avait envie de vivre avec moi. Et même de fonder une autre famille. En plus de sa famille coparentale, il aurait une famille codésirante, comme il disait.
Alors, tu me dis ?
Quoi ?
Mais comment vous avez fait ?
Ah, oh, ça t'amuse. Hein. T'es pire qu'une enfant. Je suis un ami d'enfance de Camille. On a même eu une courte relation au sortir de l'adolescence.
Tiens, il me l'a pas dit.
Bref, elles étaient dans la merde avec Claude. Moi, à ce moment-là, j'avais envie d'être père. Mais je n'avais pas envie de faire d'enfant avec les nanas que je rencontrais. T'es la première.
Ça me touche beaucoup.
Donc voilà, on s'est mis d'accord, sans rien demander à personne, sans filer de fric à des cliniques et à des labos hors de prix.
Ouais, un marché très lucratif, c'est pas de la philanthropie.
Ça arrangeait tout le monde. Au départ, Claude n'avait pas envie d'être mère. Cette situation lui convenait.
Mais concrètement...
Tu veux pas manger, ça va être froid, ma ninouche.
Tu veux pas me dire ?
T'es incroyable, tu me fais rire. Tu veux savoir si j'ai couché à nouveau avec Camille ?
Oui.
Eh bien non. J'allais tous les jours chez elle, pendant 5 jours de suite, pour être sûr, une fois par mois, autour de l'ovulation. Ça a marché au bout de 8 mois.
Ouah, quelle constance !
J'avais envie d'un enfant, moi aussi.
Et ensuite ?
Et ensuite, je faisais ma petite affaire dans la salle de bain, je recueillais ma semence dans un pot stérile, puis direction la chambre, enfin sans moi. Claude faisait l'injection à l'aide d'une seringue, sans l'aiguille bien sûr, et Camille restait allongée 1 heure. Voilà, tu sais tout. Ça nous coûtait 5 centimes de seringue, le pot stérile, la pharmacienne nous le donnait.
Génial. Mais c'est vrai que ça regarde personne après tout. Pourquoi y aurait-il tant de représentants de la loi et du corps médical qui viendraient fourrer leur nez dans notre vie privée ? Moyennant finance, en plus.
Pour éviter les abus et les risques. Faut être sûr du sperme. Mais ça se pratique beaucoup de demander à un copain. Ceci dit, c'est une responsabilité quand ce n'est pas encadré.
Comme toujours, les risques sont accrus par la clandestinité.
Eh ben, quelle conversation d'amoureux. Les voisins nous jettent de drôles de regards. Bon... On parle de nous maintenant, Manina.
Promis, je te questionne plus. J'ai le syndrome de la scène primitive. Je veux tout savoir, faute d'avoir vu la scène. Je me demande toujours comment j'ai été conçue. Pourtant, je suis née de parents hétéros, tout ce qu'il y a de plus normaux.
Délicieuse, cette poire, belle Hélène.
Tu crois que Camille va bien le prendre ? C'est quand même ta femme. Elle peut se sentir trompée.
Non, au contraire, elle va se sentir soulagée. Elle avait l'impression de m'avoir utilisée pour atteindre leur but.
C'est un peu bizarre de donner son sperme, sans désir et sans amour.
Le désir d'avoir un enfant, chez un homme, ça peut être très fort aussi. Maintenant, c'est avec toi. Je réunis les deux.
À notre futur enfant, alors. Mais pas tout de suite. Claude et Camille ont appris la nouvelle de notre relation avec joie. Elles devaient s'en douter. Théo était enchanté d'avoir une troisième maman. « Tu n'es plus ma babysitter, tu es ma maman », m'a-t-il déclaré. Et il a rebaptisé son chat Croquette, qui se souciait peu de tous ces changements d'identité, pourvu qu'on s'occupe d'elle. Ma pièce se terminait ainsi. La fiction et la réalité se rejoignaient dans un joli happy end.
C'était « Désir en paillettes » de Nicole Sigal, avec Clara Noël, la babysitter, Françoise Cousin, Camille, Marina Moncade, Claude, Nicole Sigal, Frédéric, Julien Barret, Mathieu, Francine Bouffard, la grand-mère, Sophie Troise, Théo. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus, Julie Garraud et Louis Bardinet. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux et Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.
Affaires sensibles, la fiction.
En vous présentant aujourd'hui ce projet de loi qui contient des dispositions ouvrant le mariage à droit constant et l'adoption à droit constant aux couples homosexuels, le gouvernement choisit de permettre aux couples de même sexe d'entrer dans cette institution et de pouvoir composer une famille comme les couples hétérosexuels, c'est-à-dire de pouvoir le faire soit par une union de fait que l'on appelle le concubinage, soit par un contrat, le PACS, soit par le mariage. Et c'est bien cette institution que le gouvernement a décidé d'ouvrir aux couples de même sexe. C'est un acte d'égalité. Il ne s'agit pas d'un mariage au rabais. Il ne s'agit pas d'une entourloupe, il s'agit du mariage en tant que contrat entre deux personnes, en tant qu'institution produisant des règles d'ordre public. Oui, c'est bien le mariage avec toute sa charge symbolique et dans les mêmes conditions, avec toutes ces règles d'ordre public que le gouvernement ouvre aux couples de même sexe.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui désir en paillettes ou copa mixte. Notre invitée, Hélène Malmanche, sage-femme à la maternité des Bleuets et auteure d'une thèse sur les différents modes d'accès à la parentalité contemporaine. Bonjour Hélène Malmanche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sage-femme à la clinique des Bleuets à Paris. Vous êtes l'auteur d'une thèse de sociologie réalisée à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est intitulée cette thèse « Corps, enfantement, filiation, l'institution de la famille contemporaine ». C'est bien ça?
Tout à fait.
Alors depuis 2013 et la loi du mariage pour tous, défendue et portée par Christiane Taubira, on en est où aujourd'hui? Quels sont les effets bénéfiques concret et les changements qu'elle a induits dans les mentalités?
Alors, je dirais dans un premier temps que nous avons effectivement une évolution majeure de la société, dont on ne s'aperçoit pas forcément au quotidien, mais que je peux attester parmi les parcours que j'ai retracés pendant toute ma thèse. Donc j'ai rencontré des dizaines de couples, à la fois des couples d'hommes qui ont eu recours à des gestations pour autrui, mais également une quarantaine de couples de femmes qui ont eu recours à un don de sperme. Et parmi celles qui étaient les pionnières et donc qui ont eu recours à cette technique plutôt dans les années 90-2000, en comparaison avec celles qui ont recours actuellement, qui sont enceintes ou qui venaient tout juste d'accoucher au moment de l'entretien que j'ai mené avec elles, on voit vraiment une très nette différence, à la fois dans la démarche, dans la simplicité, dans la facilité de la démarche et surtout dans l'acceptation du fait de pouvoir simplement imaginer d'accéder à la parentalité.
Ça, c'est la force d'une loi et c'est la force aussi d'une volonté politique. Hein, quelque chose comme ça qui n'est absolument pas accepté et qu'on pense inacceptable pour une partie de la population qui était contre, force de loi fait que eh ben, ça rentre dans les mœurs. Ça, c'est un peu la magie de la volonté politique. Hein. Et ça entre dans les mœurs, on peut le dire.
Ça entre dans les mœurs, alors toute proportion gardée. Hein.
Oui, bien sûr, évidemment. Il y a des oppositions, évidemment.
Absolument, et aussi, il reste quand même des freins majeurs, notamment, je pense, donc, au fait que les femmes qui ont un enfant ensemble actuellement, seule la mère qui accouche sera la mère légale à la naissance, et il faudra encore que la mère qui est la coparente sera obligée d'adopter son propre enfant. Et ça reste une violence très forte, une violence symbolique. Et cela fait partie des revendications au-delà de l'ouverture de l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes notamment.
Alors quand on écoute des archives de 2013, c'est pas si vieux, hein, 5 ans, on est encore étonné de la haine, au-delà de l'incompréhension, au-delà d'une intolérance qui serait liée à une simple incompréhension ou une culture qui fait que un couple, c'est forcément un homme, une femme. Il y avait de la haine. Est-ce que vous avez ressenti ça à l'époque? Il y avait un vrai malaise. Alors aujourd'hui encore, hein, de la part de certains, mais à l'époque, en 2013, c'était fort.
C'était très fort, et je pense qu'on mesure d'autant plus cette violence quand on revoit les images aujourd'hui.
Oui, absolument.
À distance, et qu'on voit certains propos, certaines banderoles de gens qui ont défilé dans la rue. Et dans les narrations également de ces couples qui parfois faisaient des enfants pendant cette période de 2013, et qui me disaient, certaines, elles éteignaient la télévision, parce que c'était tellement insupportable de se voir insulter en permanence par la rediffusion de ces images. Donc la violence, elle est là, et je pense qu'on en prend d'autant plus la mesure quand on regarde justement vers le passé.
Les blocages, à votre avis, de quelle nature étaient-ils? Religieux? Parce que quand même, il y a eu, on a vu, pas dire l'Église catholique, mais une partie de l'Église catholique qui était là, dans cette manifestation contre le mariage pour tous, c'était blasphème, enfin on a entendu des choses.
Tout à fait, alors c'était un mouvement qui se revendiquait être non confessionnel, ou en tout cas pluriconfessionnel, bien que on sait aujourd'hui, quand on regarde les différentes associations qui ont porté la Manif pour tous, étaient pour beaucoup des émanations, directement ou indirectement, de l'Église catholique. Donc, bien sûr, l'Église ou une partie de l'Église catholique, toute l'Église catholique ne s'est pas prononcée contre le mariage pour tous, de la même manière que certaines églises, je pense notamment à l'Église protestante, qui s'est prononcée, elle, en faveur de ce mariage. Disons que la frange conservatrice de l'Église catholique a en effet énormément porté ce mouvement. Et encore aujourd'hui, on le voit, il y a des réminiscences. À l'heure de la rediscussion des lois de bioéthique, nous avons de nouveau des franges conservatrices catholiques qui font entendre leur voix.
Est-ce que cette loi a permis d'aborder la principale question pour les couples qui s'aiment ? Et j'ai envie d'appuyer sur le mot « aiment » parce que finalement toute la philosophie d'une avancée comme celle-là, c'est reconnaître que ce qui est important pour un enfant, c'est l'amour qu'on lui donne, hein, quel que soit le cadre. Donc est-ce que ça a permis d'aborder cette question ? Comment avoir un enfant ? Comment fonder une famille sans être obligé de mentir, de tricher ?
Alors, je dirais qu'au-delà de la question de l'amour que l'on porte aux enfants...
Que ce soit de la part de deux femmes, deux hommes ou d'un homme et une femme. C'est ça le fond de l'affaire, finalement.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté vraiment de reconnaissance de la part des institutions du fait que des personnes sont en train d'élever des enfants, de les introduire dans un monde qu'ils ont hérité eux-mêmes de leurs parents et de leur entourage et qu'ils ont envie de transmettre. Et ils ont envie de transmettre ces valeurs, et ça, je crois que c'est tout à fait universel, et que ça dépasse largement la question de la sexualité, et de savoir avec qui on partage nos affinités affectives.
Mais alors, le problème était que pour donner cet amour-là, et transmettre des valeurs, quand on était deux hommes ou deux femmes, il fallait mentir ou tricher. Et on est sorti de ça. Est-ce que cette loi a permis de sortir de ça ?
Je dirais qu'en partie, oui. En partie uniquement parce que il reste tout de même une hypocrisie à l'heure actuelle, c'est sur l'adoption. Si l'adoption, qui aujourd'hui est très majoritairement une adoption internationale, est ouverte aux couples homosexuels, en réalité, très peu de pays qui proposent des enfants à l'adoption internationale autorisent en fait ces couples à avoir accès à l'adoption. Donc, en théorie, oui, ces couples peuvent aujourd'hui être au grand jour, mais dans la pratique, s'ils veulent avoir une chance d'adopter, si leur souhait est de passer par l'adoption, il faudra continuer à mentir. Donc c'est une sortie du placard, mais qui est tout de même partielle. Et puis par ailleurs, on ne leur autorise pas non plus l'accès, en tout cas pour les couples de femmes, ni même pour les femmes seules, à se présenter aujourd'hui devant un médecin et à avoir accès à des techniques de procréation médicalement assistée. Donc il y a encore des arrangements, hein. Il y a des arrangements qui existent dans les cliniques. Certaines femmes qui sont en couple avec une femme ou qui sont seules viennent avec un ami et prétendent être en couple et ont ainsi accès à une procréation médicalement assistée. Mais ce n'est pas non plus un choix complet puisque ce n'est pas un donneur anonyme. Si ce couple de femmes souhaitait avoir accès à un don anonyme, il faut quand même néanmoins avoir donc quelqu'un dans l'entourage qui pourra aider à cette procréation. Donc, il y a une affirmation de la part, je dirais, des couples d'hommes beaucoup plus nets sur la question de la gestation pour autrui, qui sont beaucoup plus ouverts. Ils ne peuvent pas mentir. Ils n'ont pas le choix, en fait. Que ce soit un couple de femmes ou un couple d'hommes, on ne peut pas mentir sur ce qui s'est passé pour la procréation. On ne va pas prétendre que cet enfant est issu de deux hommes ou de deux femmes en termes de procréation, en termes de gamètes, bien évidemment. Donc, il y a à la fois cette très grande sincérité qui est de fait et qui est au vu et au su de tous, et en même temps, une obligation de rester à moitié dans le placard pour tout ce qui concerne la partie médicale, je dirais, même si aujourd'hui, dans le suivi de la grossesse, par exemple, les couples de femmes sont très bien acceptés et très bien suivis, à leur propre étonnement d'ailleurs, parce qu'elles se sentent tout de suite toutes les deux accueillies comme deux mères, ce qu'elles n'imaginaient pas forcément possible en faisant les premières démarches à la maternité.
Alors, j'imagine qu'avant de ce genre de demande d'adoption pour ces couples-là, il y a une enquête sociale. Hein. Comment elle est menée, cette enquête sociale ? Est-ce qu'elle est menée dans le but d'aider ou d'aller chercher la petite bête qui fait qu'on pourra dire non ?
Alors, c'est très variable selon les villes. Mmh. Par exemple, en région parisienne, certains parents font état simplement d'une déclaration et d'une demande auprès du tribunal. Il n'y a pas d'enquête sociale. Et pour d'autres, au contraire, la police vient chez eux, chez elles, ouvre les placards, regarde si effectivement il y aura du lait premier âge et tout ce qui est nécessaire à l'élevage d'un enfant, puisque c'est le terme. Donc, c'est extrêmement variable, la palette, on va dire, de cette enquête sociale qui est menée donc, par la police. Donc, ça peut être extrêmement
traumatisant, intrusif. Traumatisant et intrusif. Et j'allais vous poser la question, est-ce que des témoignages, des personnes ont témoigné d'un sentiment comme ça, un peu effrayant, quoi?
Oui, tout à fait. Et surtout, le fait qu'on puisse éventuellement ne pas reconnaître leurs compétences parentales, puisque là, c'est vraiment l'État qui vient...
Ça, c'est une douleur. Hein.
Tout à fait. Et qui vient dire si oui ou non on sera en mesure, capable d'être parent. Et d'un enfant qu'on élève déjà, en fait. Puisqu'il y a un des deux parents qui est le parent légal et l'autre qui a besoin d'adopter. Donc, ça peut être réellement vécu comme une violence, et sans compter les témoignages qu'il faut demander à son entourage pour attester de sa qualité de parent et du fait qu'on s'occupe de cet enfant comme le sien et que c'est bien le sien, même si on n'en a pas accouché.
Hélène Malmanche, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer d'aborder cette grande question sociétale, hein, qui est celle de l'égalité. Parce que, il faut le rappeler, toute cette loi et toute cette réflexion tourne autour aussi d'un autre point important, que les homosexuels, femmes ou hommes, aient les mêmes droits que les hétérosexuels. En fait, c'est ça le but, hein, et la philosophie de cette loi, et de peut-être celles qui vont arriver. On se retrouve dans 3 minutes.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans. Je veux un enfant. Passe 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour. Mais sur mes dessous, le sang revient comme toujours. Je me sens bien seule et je ferme ma gueule quand autour de moi toutes les cigognes frappent aux portes sans passer. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de pleurer, je m'accroche à ton cou. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qu'est-ce qu'ils ont les autres de plus seuls que nous? Je me fous des discours, des mots qui rassurent, des professionnels. La conne, je sais faire, la cuisinière aussi. La fille, je sais faire, la pute, je sais faire, mais pas donner la vie. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre sentir le sang. La vie dedans, je veux un enfant.
Hélène Malmanche, un sondage de l'IFOP rapporté par Martine Gross dans un article qu'elle a écrit dans Libération montre qu'une majorité importante de l'opinion est favorable à l'encadrement légal de la GPA, 64%, et à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, près de 60%, à toutes les femmes ou et à tous les hommes, qu'elles soient ou qu'ils soient seuls ou en couple avec une autre femme ou un autre homme. Ça, c'est très majoritaire, hein, 60 et 64%. On peut dire que c'est une vraie avancée, la preuve d'une maturité sociale.
Alors, dans le débat public, les choses semblent avancer, en tout cas dans l'opinion générale. Pour ce qui est ensuite du débat parlementaire qui aura lieu, l'inconnu reste total. Et il me semble que ces sondages qui montrent effectivement une évolution très nette, si on regarde les chiffres avant 2013, avant le mariage pour tous, et les chiffres aujourd'hui, il y a vraiment une très nette adhésion à cette idée que deux hommes ou deux femmes, ou une femme seule, peuvent élever des enfants ensemble. Et donc ce modèle, un papa, une maman, finalement n'est plus là l'unique référence. Ça ne veut pas dire évidemment que tout cela disparaît, mais que ces modèles familiaux peuvent coexister ensemble.
Voilà, il y a le choix et la liberté de ce choix.
Tout à fait, et aussi la cohérence de ces modèles qui arrivent à coexister et ils ne sont pas contradictoires entre eux.
Bien sûr. Dans la fiction, nous racontons l'histoire d'une famille recomposée, vous l'avez entendu, avec des nouveaux rapports père-mère, homme-femme, des liens qui restent très forts, mais qui sont effectivement différents de ceux d'une famille, disons, plus classique, plus bourgeoise, ou encore du modèle du début du XXe siècle. Il semble que ce soit une vraie avancée, une évolution dans ce qu'on entendait de la famille. Alors, jusqu'où maintenant? Parce que c'est ça, on peut... Les progrès comme ça, sociaux, ils vont par pousser, parfois. C'est rarement linéaire. Il est poussé, puis on attend, il se passe rien, et puis ça revient. Comment vous sentez l'évolution, vous, de cette problématique-là?
Je pense que ce qu'on peut faire, c'est analyser ce changement social, faire des projections sur ce que ça va devenir. Je ne suis pas en mesure de le faire. Simplement, il y a des questions qui existent autour des coparentalités. Donc, quand il y a plus que deux personnes qui s'investissent au titre de parents ou qui se ressentent en tant que parents dans l'éducation d'un enfant. Cette question-là, pour l'instant, elle n'est pas tranchée. Nous restons à un modèle avec deux parents et ça fait partie des questions qui sont actuellement en débat. Voilà, ça va faire partie de ces différentes formes de famille qui vont peut-être émerger de plus en plus et qui vont interroger notre modèle actuel.
Les politiques actuelles, vous semble-t-il assez combatifs, assez préoccupés par ces questions-là, la loi de bioéthique, elle traîne, la loi de bioéthique. Il y a encore une volonté politique forte, vous le sentez, ou ça fait partie des sujets dont il faut bien s'occuper, qui ne sont pas prioritaires?
Alors, je ne suis pas politiste.
Non, mais qu'est-ce que vous êtes citoyenne française,
tout à fait, absolument.
Vous entendez des discours.
Il me semble que ces questions familiales sont beaucoup moins à l'ordre du jour qu'elles ne l'étaient sous le quinquennat Hollande, puisque ça a vraiment, je pense que c'est ce qu'il restera.
Certainement.
Du quinquennat Hollande.
Bien sûr. La loi pour le mariage pour tous.
Tout à fait. Donc, cette politique familiale a vraiment pris une place très très grande. Il ne me semble pas à l'heure actuelle qu'on puisse en dire autant du nouveau président. Le débat public s'empare moins de cette question, il me semble, mais en même temps, nous ne sommes pas encore au cœur, au moment où le débat parlementaire va s'ouvrir sur les lois de bioéthique.
Est-ce qu'on peut penser que la gauche, qui a toujours été porteuse de ce genre de progrès, sauf pour ce qui concerne la loi sur l'avortement en 1974, votée par un gouvernement de droite, mais à tendance centriste quand même, est-ce que le fait que la gauche soit considérablement affaiblie aujourd'hui, alors qu'elle porte naturellement, historiquement, ce genre de progrès, est-ce que pour vous c'est une explication du fait qu'on ne prenne pas à bras le corps ces sujets-là?
Je pense aussi que nous sommes dans un moment et une situation notamment historique qui n'est pas forcément propice à ces discussions autour de la famille. Il y a un contexte international assez compliqué. En ce moment, on est plutôt dans des revendications sociales autour de statuts de la fonction publique. Donc, les questionnements n'émergent pas, en tout cas pas en ce moment.
Oui, en fait, c'est pas une priorité, quoi. Par rapport aux défis économiques, sociaux, par rapport à la question migratoire, par rapport à ce qui préoccupe les gens, ce serait pas, de ce que j'ai compris, la priorité politique, quoi.
À l'heure actuelle, voilà, d'accord. Tout à fait.
Toute dernière chose, Hélène Malmanche, une thèse, c'est une enquête, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez rencontré beaucoup de gens, et après on fait une synthèse. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé, le plus enrichi dans cette enquête et cette réflexion?
C'est très vaste.
Oui, c'est très vaste, mais s'il fallait retenir quelque chose.
S'il fallait retenir quelque chose, je dirais que j'ai été surprise par la normalité de ces familles, et même par la grande intelligence avec lesquelles ces personnes réfléchissent, pensent ces projets parentaux. Moi qui suis sage-femme et qui vois tous les jours des couples tout à fait lambda, ordinaires, qui font des enfants, la plupart n'ont pas réfléchi un dixième de ce que ces couples de femmes ou ces couples d'hommes ont dû réfléchir, ont dû surmonter pour avoir des enfants. Donc ce qui est finalement le plus frappant, c'est peut-être cette préparation à la parentalité que ces personnes réussissent à élaborer, alors même que pour le commun des mortels, je dirais, c'est une question qu'on se pose à peine.
Merci infiniment, Hélène Malmanche.
Merci beaucoup.
Pour vos éclairages. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Désir en paillettes ou Copa Mixte. Une fiction écrite par Nicole Sigal, réalisée par Michel Sidorov et Al Niro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Lucas Vaillant et Basile Bocquer.